Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Oui, je dois vous le dire, j'ai été sidéré par cette affaire. On est en région parisienne, dans un RER, un transport en commun. Une dame qui s'appelle Coco va se faire voler à une heure de pointe, alors qu'il y a plein de monde dans la rame de ce RER. Elle va se faire voler, elle va se rendre compte qu'elle n'a plus de téléphone portable.
Oui, vous avez peut-être entendu l'histoire de Coco ce matin sur RTL. Donc cette femme s'est fait voler son téléphone portable dans le RER et là, elle a pris une décision radicale.
Je sens une main me prendre mon téléphone de ma poche. J'ai tellement gueulé.
Donnez-moi mon téléphone là.
Que ça a meuté toutes les personnes qui étaient là et je dis personne ne descendra tant que je n'aurai pas récupéré mon téléphone, quitte à tirer la sonnette d'alarme et de bloquer tout le monde.
Et finalement, grâce à sa montre connectée, elle fait donc sonner son téléphone. Les usagers se sont mis tous ensemble pour le débusquer en bloquant les portes. Le voleur a été retrouvé et Coco a pu récupérer son téléphone portable. La scène a été filmée, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux et elle est devenue virale.
J'adore cette histoire, j'adore, parce que finalement le bien a triomphé. Pourquoi ? Parce que les gens ont été solidaires, ils ont vu cette femme désespérée, Coco, et ils ont dit, on va l'aider, et voilà. Moi j'adore cette histoire. Et l'autre, le voleur, là, il a rendu le téléphone, il vociférait parce qu'il ne voulait pas qu'on le filme. Arrêtez de me filmer.
Il a jeté le téléphone même.
C'est ça.
J'adore. Jean-Luc, alors,
oui,
vous me disiez...
Écoute.
Il y a 3 minutes qu'il est arrivé à un peu la même chose dans un bus que vous avez emprunté il y a quelques jours, c'est ça ?
Tout à fait, que je ne prends jamais puisque j'avais la voiture en panne ce jour-là.
Oui.
Donc quand je suis allé à Tarbes, j'ai pris le bus.
Ouais. Mmh. Et que se passe-t-il dans le bus alors ?
Eh bien, on était comme une dizaine à peu près là, avec des élèves qui partaient à l'école. Et ce qui s'est passé, c'est que je vois un gamin à un moment donné devant moi qui ouvre le sac à dos de la jeune fille devant lui, qui prend le portable, qui le met dans sa poche. Tu fais au gamin, il n'y a pas de problème là. Il me dit, j'ai rien fait, mais tu es en train de le faire devant moi. On ne dit pas qu'il n'y a pas fait. Et le chauffeur me dit, qu'est-ce qui se passe ? Mais le gamin vient de voler le portable de sa collègue à côté là. Il dit, attends, bouge pas, je m'arrête, j'arrive. Il est arrivé, il dit, tu auras le portable ? J'ai rien pris. Si tu veux qu'on te fouille, on peut te fouiller. Il a rendu le portable, sauf que le chauffeur lui a demandé de descendre.
Quel âge ?
Trajet,
quel âge à peu
15
près
ans, 15 ans.
15 ans.
Et je connais très bien, c'est un de mes voisins, le gamin.
Et comment dire, avec la jeune fille à qui il avait volé le portable, ils se connaissaient l'un et l'autre, ils étaient dans la même...
Ils se connaissaient, ouais. Ils vont dans le même lycée.
Oh là là.
Dans le même lycée. Ah, c'est grave, c'est un peu grave. Hmm.
Donc là, vous avez un chauffeur de bus qui a été formidable.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Ouais.
Et il nous a dit, quand même, ne me tape pas, t'inquiète pas, on ne va pas te taper. Par contre, je connais très bien ses parents, j'ai appelé son père, qui m'a dit comment ça lui a volé. Ben oui, on lui a fait rendre, et où c'est qu'il est ? Sur le bord de la route, il t'attend. Le père est allé le récupérer. Moi, en rentrant du boulot le soir, je suis allé voir ses parents pour lui demander qu'est-ce qui s'était passé. Et le gamin lui a répondu à ses parents, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, ça ne m'arrive jamais, j'ai pris le portable. Voilà.
Bon.
Donc... Mais ouais, le père voulait mettre en maison correction. Non, ça ne sert à rien. Il a fait le mettre en maison correction, il a compris ce qu'il a fait, il s'est excusé. En plus, il s'est excusé auprès de son école, dans la classe, devant tout le monde.
Écoutez, c'est pas plus mal, hein. Franchement, c'est pas plus mal. Mais j'adore des anecdotes comme ça, parce qu'en général, vous m'appelez pour me dire, ils regardaient leurs pieds, les gens, les voisins, dans le bus, dans la rue, etc. Valérie a appelé le 3210. Bonjour Valérie, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Eh bien, je vous annonce très officiellement que vous allez parler dans quelques secondes. Restez avec moi,
d'accord,
tout de suite.
Oui, d'accord, monsieur Brunet.
À tout de suite.
13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole. Avec Éric Brunet sur RTL.
Dites-moi, les amis, que ça arrive de temps en temps, que quand une personne se fait voler, violenter, agresser dans la rue, dans un transport en commun, dites-moi que ça arrive, que les gens se mobilisent autour pour l'aider, pour lui venir en aide. Dites-moi que ça arrive, parce que on voit tellement dans les journaux, à la radio, d'histoires où les gens regardent leur pompe et n'interviennent pas, que c'est désespérant. Valérie, vous avez fait le 32-10 et vous êtes du côté, vous êtes à Paris. Bonjour Valérie.
Oui, moi je suis à Paris et je voulais témoigner comme quoi les gens n'interviennent pas toujours par contre sur Paris, parce que moi j'ai eu une petite aventure qui m'est arrivée dans le métro. Il y avait un jeune homme qui était assis sur le strapontin. Quelqu'un est entré et a décrété que cette personne devait se lever alors qu'il y avait beaucoup de place autour. Et cette personne parlait mal au jeune homme, mais vraiment d'une façon, enfin, très, très impolie, très, très méprisante. Et donc, eh ben, moi, je suis intervenue, mais personne n'est venu m'aider.
Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez dit, allez vous asseoir ailleurs ?
J'ai simplement dit, pourquoi vous voulez que cette personne se lève ? Il y a de la place, pourquoi vous vous en prenez à cette personne ? Et le monsieur m'a répondu de mêler ce qui me regardait. Ben, j'ai dit justement, je me mêle de ce qui me regarde, parce que moi, j'aime pas qu'on maltraite les autres, c'est tout, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et quand ça s'est produit, bon, la personne n'a pas trop insisté, parce que je dois vous dire, monsieur Brunet, que je suis assez virulente en général, donc je me laisse pas manœuvrer, j'ai pas l'intention de cautionner. Quand je vois des choses comme ça, je ne peux pas me taire, quoi.
Et qu'est-ce qu'il lui disait ? Enfin, je comprends pas, parce que autant on comprend pourquoi une personne peut, je sais pas, voler, par exemple. Là, c'était quoi le but de ce monsieur qui rentrait ? Qu'est-ce qu'il lui disait au jeune homme qui était assis dans le métro alors qu'il y avait de la place partout ailleurs ?
Je pense que cette personne avait peut-être, monsieur Brunet, tout simplement envie d'en découdre, ou c'est ce que j'ai pensé, hein.
Oui.
C'était un jeune... Ce petit jeune homme était un jeune Africain, donc je me suis peut-être dit que c'était peut-être à connotation raciste, mais j'en suis pas sûre.
Mais qui était le monsieur qui était assis, paisiblement, c'était un jeune Africain, c'est ça, hein ?
Oui, c'était un jeune Africain. Et donc, il était sur son portable, il demandait rien à personne. Et ce qui m'a choquée, donc, c'est que personne n'a répliqué quand moi, je suis intervenue. Et bon, moi, je dis pas que je suis une petite vieille, mais bon, voilà, j'ai 59 ans. Donc, je trouvais quand même normal que éventuellement des gens puissent me soutenir dans le fait que j'intervienne pour être choquée à ce qu'il arrive à ce jeune homme.
Quand vous faites ça, Valérie, bravo, pas une seconde, vous vous dites « je risque de m'en prendre une » pour parler vulgairement.
Non, c'est après que je me rends compte que je risque de m'en prendre une, mais sur le moment, je ne me suis pas posé trop de questions. Et alors, j'étais tellement furieuse. Ben, qu'après, j'ai déclamé. J'ai déclamé ce que j'avais à dire dans le wagon.
C'est-à-dire,
et
vous avez dit...
J'ai pris un exemple peut-être idiot, quand de l'argent avait été demandé pour refaire les Notre-Dame, parce que ça, bon, moi, ça m'avait un peu, ça m'avait un peu barbé et choqué, quoi. Que des gens, comme ça, pleurent pour des pierres, excusez-moi de vous dire ça, monsieur Brunet. J'ai dit, ces gens-là, ils ne sont pas attentifs à la souffrance humaine. Non, ce qui les importe, c'est de donner de l'argent pour reconstruire des pierres, se faire voir, pleurer pour des pierres. Enfin bref, j'ai déclamé, monsieur Brunet.
Alors, vous étiez toute seule, vous étiez sur votre fauteuil dans le métro et vous avez dit, il y en a marre de cette société où on ne pense qu'à,
qu'à
donner de l'argent pour les pierres alors qu'il y a des gens... Vous êtes un sacré numéro, mais en même temps, bravo, parce que vous êtes courageuse, et c'est inacceptable que pour des raisons racistes ou pas, d'ailleurs, ou d'autres raisons, on s'en prenne comme ça. Ces petits actes de violence sont insupportables. Et quand il y a des... Alors, quand il y a des gens comme vous qui ont le courage de s'opposer à ça, c'est quand même un signe très positif pour le reste de la rame de métro, hein, ou du bus, ou quand ça se passe dans la rue pour les gens qui se promènent autour, parce que on a envie de s'agréger, de vous défendre, d'être à vos côtés. C'est un premier signal contre les violents.
Mais vous savez, monsieur Brunet, je vais vous dire une chose. J'agis comme ça quand je le peux, quand j'assiste à ça, aussi bien quand il s'agit d'êtres humains, mais également quand il s'agit d'animaux.
Oui.
Parce que ça, c'est pareil. Quand je vois qu'un animal est maltraité, un coup de pied, autre chose, ça m'est déjà arrivé, je préfère vous dire, monsieur Brunet, qu'il m'est déjà arrivé de créer des attroupements. Hein. Parce que là, j'en reste pas là, monsieur Brunet, hein, du tout. Hein. Non.
Vous êtes phénoménal, vous. Valérie, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Quand un type traite mal son chien, vous ameutez tout le quartier. Vous avez raison. Hein.
Ah bah oui,
la maltraitance animale, c'est dégueulasse.
Et puis, je lui fais honte. Mais vraiment, je lui fais honte, monsieur Brunet.
Restez avec nous, Valérie. Vous êtes un numéro. Restez, s'il vous plaît, avec nous. J'adore la façon dont vous fonctionnez. Vous avez bien raison. Hein. Restez avec nous. Je prendrai dans un instant Olivier, qui est à Lens. Vous avez fait le 32-10. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, Eric.
Que faites-vous dans la vie ?
Je suis psychiatre.
Oh là 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 !
Il en faut.
Je vous garde au chaud. Ah bah vous allez décrypter le. Vous avez décrypté ce que nous a dit Valérie. C'est très intéressant. Ce type d'individus qui font partie des quelques pourcents d'individus qui ne laissent pas les choses se faire, qui interviennent quand quelqu'un se fait agresser dans l'espace public. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Pour moi, le plus choquant, c'est de voir les gens qui ne réagissaient pas. Et bien sûr, tout le monde a peur. Mais l'indifférence, comme la chanson de Beko, c'est ça qui nous tue en ce moment.
Message qu'on vient tout juste de recevoir, l'indifférence c'est ce qui nous tue. Ben, l'indifférence, elle n'a pas eu lieu dans cette rame du RER, vous avez entendu cette histoire, l'histoire de Coco ce matin sur RTL. Elle s'est fait voler son téléphone portable dans un transport en commun, et grâce à la mobilisation de toute la rame, en quelques secondes, allez, en une minute, elle a pu retrouver son smartphone. Les usagers se sont mis ensemble pour le débusquer, on fait sonner le téléphone, et c'était la personne qui était dans le RER, juste à côté de Coco, qui l'avait, et donc c'était un peu chaud, mais on a récupéré le téléphone. On est avec Olivier qui nous a appelé. Alors lui, il est psychiatre, Olivier.
Oui.
Alors, il y a des gens, un pourcentage assez limité, j'imagine, qui en pareilles circonstances, il y a des gens, comme Valérie qu'on vient d'entendre, qui ne supportent pas l'injustice et qui se lèvent dans un transport en commun, dans la rue, pour dire « Vous avez vu ce que vous avez fait, c'est inacceptable ».
Voilà, et qu'ils le disent, c'est surtout ça, c'est de ne pas rompre le discours, de répéter sans cesse comme l'a fait Coco, on l'entend très bien dans la vidéo qui a foisonné sur le net. Mais voilà, on convoque ici tout ce qui a été pu être produit par Gustave Le Bon, l'effet des foules. On les a trop souvent convoqués les derniers mois là, pour les émeutes, en tout cas pour des mauvaises
Mais pourquoi Olivier, pourquoi dans un bus, un métro, un tramway, dans la rue, dans une boutique, dans un magasin, pourquoi est-ce que parfois, quand il se passe un acte de violence, tout le monde regarde ses pompes, personne ne bouge, et je suis sûr que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous d'être lâche.
Alors, c'est pas être lâche, c'est par rapport aussi à la victime, en tout cas à celui qui se fait dérober son téléphone comme Coco, hein, comme Valérie aussi qui se faisait injoncter par l'assaillant. À partir du moment où la victime commence à riposter, et à ne pas à montrer qu'elle est en face, hein, de son mise en cause, il n'y a pas photo, les gens vont venir pour venir l'aider, c'est l'effet de contamination qu'il va avoir après, mais il faut avant tout que la victime, alors c'est ça la stratégie, hein, quand vous êtes dans la rue comme ça, assailli, il faut crier, il faut pouvoir continuer et ne pas cesser de parler.
Il faut demander de l'aide à une personne, cibler une personne, il faut...
Oui,
il faut
crier. Et ne pas cesser, ne pas rompre son propos, continuellement dire voilà, je suis attaqué, je suis attaqué. Oui. Et à partir de là, vous allez avoir une réaction en chaîne par contagion. Ouais. Et ça, c'est...
Alors là, ouais, vous êtes bien optimiste pour la réaction en chaîne. À mon avis, c'est pas toujours la réaction en chaîne. Restez avec nous, attendez Olivier, restez avec nous, parce que justement, vous allez un petit peu analyser tout ça avec moi. Coup de fil au 3210 de Virginie, que je vais prendre. Elle est en Seine-et-Marne, en région parisienne, je crois. Bonjour, chère Virginie.
Bonjour, je voulais déjà vous remercier de vos émissions, parce que c'est un vrai enchantement au quotidien pour moi.
Et de les faire, si vous saviez, et de les faire.
Et c'est toujours enrichissant. Quel que soit le sujet, on en apprend tous les jours. C'est un bonheur, vraiment, au quotidien.
Merci, Virginie.
Alors, je vous crie haut et fort, comme vous le disiez tout à l'heure, ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai porté secours à une petite jeune fille. Donc, on est dans un tout petit village de 2000 habitants. On est le soir, il est à peu près, je crois que je suis partie à 7 heures de Paris, parce que je l'ai fait pendant une dizaine d'années. J'avais 4 heures de transport par jour. On devait arriver, il me semble, alors je ne sais plus, ça devait être 10 heures moins le quart. Donc tard, on n'était pas derrière les conducteurs. C'est un petit AGC de 4 voitures, hein, c'est tout petit. Et puis, j'ai mes gros Marshall sur les oreilles, parce que c'est comme ça que je fonctionne. J'écoute la radio, la musique, ça m'aide à...
Vous êtes dans le retour entre Paris et votre Seine-et-Marne dans un tout petit, petit transport en commun, un petit train.
On fait un gros train de Paris-Est à Meaux, et Meaux, on a une correspondance, Meaux-Crouy-sur-Ourcq, parce que c'est le village où j'habite.
D'accord.
Et là, il est tard, bon voilà, on rentre, et j'ai dit à votre standardiste qu'on était 6, mais en fait, non, je me suis rappelé qu'on n'était que 5.
D'accord.
Avec la victime. donc quatre.
Que se passe-t-il?
Il y avait donc moi, un couple d'anciens et un monsieur. Et une petite demoiselle qui se fait malmener par deux, alors je ne suis pas du tout raciste, hein, mais c'est deux maghrébins, parce que je m'en rappellerai toujours, et imbibé de bière, parce que ça sentait la bière, vraiment fort. Et moi, j'ai mes Marshall sur les oreilles, donc je ne regarde pas les gens dans le
c'est
train.
Quoi, ah oui, mes Marshall, votre casque, les écouteurs.
Oui, ouais. Mon gros casque, c'est le gros casque à l'époque, hein. Ouais. Des trucs de compétition là, qui coupent du monde, donc voilà. Et là, je vois bien qu'il y a un truc qui se passe. Elle est en face de moi de l'autre côté, en fait. Et on est près des portes de sortie, enfin, des portes pour sortir. Mmh. Et je vois bien qu'il y a un truc qui se passe qui est malsain, qui ne va pas. J'enlève mes Marshall et là, effectivement, j'entends... alors, c'est ce que je disais à votre standardiste, hein, quand bien même on s'habille bien comme on veut. Mais enfin, là, on est en hiver, elle avait un col roulé, un jean. Rien de provoquant, hein, vraiment. Mmh. Elle se fait malmener, touchée par ces deux individus-là. Et alors, on ne va pas se mentir, hein, on a tous un moment de doute, hein, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Et dans ma vie, j'applique toujours un truc que ma grand-mère, qui n'est plus là, m'a toujours dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Mmh. Donc voilà, et je l'applique au quotidien, tant que je peux. Et là, je me dis, mais je serai à sa place. J'aimerais pas que quelqu'un m'aide, bah si, c'est évident. Je peux vous dire que toute seule et tout, sans munitions, hein, j'ai pas de bombe lacrymo, j'ai rien du tout, hein, dans mon sac, hein, donc voilà.
Vous vous levez?
Et suite à cette histoire, oui, je les interpelle tous les deux, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas ou quoi? Et mais bourré, il n'y a pas d'autre mot. Et là, il continue, et je regarde les gens, je dis, mais venez m'aider, me laissez pas toute seule, elle se fait malmener, elle était dans un état de sidération, elle tremblait, je m'en rappellerai toute ma vie, hein. Et elle ne disait pas un mot, mais vraiment, hein, pas un mot, donc elle nous a pas appelé à l'aide, hein. C'est vraiment, et je pense que ce jour-là, je me serais pas levée, je pense pas qu'il y aurait quelqu'un qui l'aurait aidée non plus.
Donc, elle avait quel âge, cette jeune fille, à peu près?
Elle avait 18-20 ans, hein, oui. Et les deux pareils, hein, les deux énergumènes également. Et donc là, on a fait un effet de masse, on était quatre, hein, mais bon, voilà, contre deux, voilà. Et là, j'ai par chance, au-dessus de ma tête, j'avais le signal d'alarme. Donc je dis, écoutez, si vous n'arrêtez pas, je le tire. Tant pis, on s'arrêtera. Et vous vous en débrouillerez avec les contrôleurs, parce que sur ces trains-là, il y a le chauffeur, il y a le conducteur et il y a toujours un contrôleur, puisqu'on n'est pas électrifiés, nous. Mmh. Voilà, donc bon, bref. Et puis, on parlemente. Moi, je lui dis, mais écoutez, ça pourrait être votre sœur, ça pourrait être votre mère, une cousine. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce comportement? On essaye, comme disait le monsieur d'avant, le psychologue, j'essaye de toujours parlementer.
Et il parle avec vous, les deux agresseurs? Ils parlent quand même?
Ouais, ils me disent clairement de fermer ma gueule et de m'occuper de mes affaires, parce que sinon, ça allait mal se passer pour moi, quoi. Donc, voilà. Et puis, j'ai les autres personnes qui se rejoignent avec moi. Mmh. Et je pense qu'ils ont pris peur, parce que j'avais vraiment la main sur le signal d'alarme. Et j'allais le faire, hein, vraiment. Mmh. Ils l'ont vu, hein. Et donc, on arrive à un arrêt qui s'appelle Île les Meldeuses. Et ils sortent tous les deux en courant, en fait. Mmh. Et moi, je vais à Crouy-sur-Eure, c'est deux gares plus loin. Et je dis à la petite dame, dont déjà je la fais venir à côté de moi, je lui dis, bon, bah, ça y est, ils sont partis, machin. Mmh. Elle me dit, vous savez, je suis sûre qu'ils vont m'attendre à toutes les autres gares pour me faire du mal et tout. J'ai écouté, à l'époque, j'avais mon ex-mari qui venait me chercher à la gare en voiture. J'ai écouté, moi, vous venez avec moi jusqu'à Crouy et avec mon mari, on vous ramènera à votre maison, quoi. Et par chance, l'arrêt d'après, c'est Lizy-sur-Eure, qui est Yanguitoun, qui est toujours ouverte avec des agents dedans. Et là, on a une chance ce jour-là, ils étaient là, et souvent, quand le train passe, ils sont devant la porte, en fait, vous savez, ils sont à l'extérieur, oui, devant la porte, porte ouverte. Et là, je lui ai dit, écoutez, il y a les agents, allez vers eux, ils vous prendront en charge. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone au cas où, si elle avait besoin de porter plainte et tout, bon, bah, voilà, je suis témoin. Elle m'a jamais rappelé et je l'ai jamais recroisé.
Bravo, mais... Virginie, restez avec nous, j'observe une chose. Virginie, femme courageuse. Valérie, tout à l'heure, elle est toujours avec nous, femme courageuse. Coco, qui a retrouvé ton téléphone portable qu'on lui a volé il y a 3 jours, femme courageuse. Ça fait trois femmes qui débrouillent des situations complexes, mesdames, messieurs. À tout de suite.
Éric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Victor au standard, que se passe-t-il, mon cher Victor? Elle est incroyable, cette émission. On a souvent des émissions, c'est noir, c'est dur, ça va pas, la France est endettée. Bon, ben là, il y a des gens dans le métro, dans le bus, dans le tramway, dans la rue, dans les magasins qui disent Ben moi, je suis venu en aide à une personne qui a été agressée. Voilà. Personne ne bougeait, mais moi, je l'ai fait. Et ça, ça me redonne le sourire, Victor.
Oui, c'est la force du 3210 et notre application RTL sur lesquelles on reçoit beaucoup de messages. Chantal, dans le Val-de-Marne, je suis d'accord, il faudrait tous qu'on intervienne, mais c'est vrai qu'on a souvent peur de soi-même prendre des coups en intervenant. Et donc, on ne fait rien, par peur sans doute. Sur un autre sujet, Carole à Toulouse, merci de parler du cancer. Je lutte depuis plusieurs années contre cette maladie et ma mère a lutté pendant plus de 20 ans, car oui, Eric, c'est notre prochain thème dans quelques minutes. Cette maladie est-elle encore taboue ? Y a-t-il des mots, des expressions à éviter ou à bannir ? Comment en parlez-vous avec vos proches atteints de cette maladie ? Margot, Cerise et Enzo vous attendent au 3210.
Très bien. Le cancer dans une poignée de secondes, mesdames, messieurs. Valérie, qui était avec nous il y a quelques instants, là, qui s'en est pris dans un transport en commun à une personne qui voulait déloger d'un fauteuil une autre personne. Valérie, vous avez entendu ce que je disais tout de suite, Valérie. Il y a beaucoup de femmes qui sont héroïques.
Ben, je crois que souvent les femmes sont assez courageuses, hein, monsieur Brunet.
C'est fou, hein, Virginie, Coco, Valérie, les trois premiers exemples, 3 sur 3, sont des femmes qui se déballonnent pas face à des mecs qui sont pas très bien intentionnés. Valérie, Virginie,
Vous savez, monsieur Brunet,
dites-moi.
Moi, je voulais juste vous dire un petit mot par rapport au cancer, que là, par exemple, je suis très contente parce que, bon, c'est peut-être pas beaucoup, mais on avait moyen de s'inscrire à la course Jonquille pour l'Institut Curie.
Oui.
Et donc, moi, je me suis inscrite. Et c'est-à-dire qu'on s'inscrivait pour 15 euros. On mettait une application. Et quand on parcourait 1 km, il y a 1 euro qui est remis. Moi, je suis contente. J'en suis quand même à 49,5 km. C'est mieux que rien.
Bravo, Valérie. Elle a du caractère, cette Valérie. Elle doit, à mon avis, vaut mieux pas s'engueuler avec elle parce que c'est une sacrée personnalité. Nous parlerons, Valérie, vous pouvez rester d'ailleurs avec nous, nous parlerons du cancer et des mots qu'il faut choisir. Est-ce que cette maladie est taboue dans les prochaines minutes ? Mais je voulais quand même qu'on termine sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'appels. Il faut être sympa avec ceux qui ont appelé sur justement les agressions dans l'espace public. Je vais prendre Thierry. C'est ça ? Bonjour, Thierry.
Bonjour, Eric. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tout le monde.
Vous êtes où, Thierry ?
Alors moi, je suis à Mont-de-Lieu actuellement.
Mont-de-Lieu, la Napoule, c'est
exactement,
ça.
Ouais, tout à fait.
Vous avez déjà été spectateur d'agression, d'incivilité ?
Dans un premier temps, spectateur, ensuite acteur. En fait, j'étais dans les fins des années 80-90, j'étais dans le métro, j'habitais là-haut à l'époque. Et je vois, il y avait la foule, il y avait du monde, c'était les heures d'affluence. Et je vois une pauvre femme devant moi qui est coincée entre la foule et un frotteur derrière.
Oui.
Et je vois le gars, il est en train de se frotter. Je vois cette pauvre femme qui essaie de se dégager sans trop rien dire. Je vois qu'il se frotte, je vois qu'il envoie un peu les mains. À un moment donné, il y avait du monde. J'étais juste devant moi, le gars. Et là, je commence à, excuse-moi le terme, à gueuler. Je dis, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il me dit, rien, je fais rien. Je t'ai vu, qu'est-ce que tu fais ? Et cette femme se retourne et puis elle commence à me remercier. Donc le gars, je l'invite à sortir à la prochaine station. Alors il y avait la foule, les gens ont vu tout ça, et ils voulaient pas trop sortir. Bon, je l'ai invité un peu plus fortement, et là, tout le monde s'est écarté devant. J'étais carrément au fond du wagon, donc tout le monde s'est écarté pour que je puisse mettre ce mec dehors, quoi, ni plus ni moins. Et après, cette dame m'a remercié, mais les autres gens sont venus, ils ont dit c'est bien ce que vous avez fait, c'est ça. J'ai dit oui, mais c'est bien, mais vous avez vu comme moi, quoi, en fait, et personne ne bouge. Et donc, le gars, après, j'ai foutu dehors et puis terminé, quoi. Mais voilà, c'est que, comme on disait tout à l'heure, heureusement, les trois personnes qui ont témoigné précédemment, surtout des femmes face à des gars, c'est encore plus courageux, je dirais. Et que, effectivement, les gens regardent leurs chaussures parce qu'ils ont peur de se faire frapper ou ils ont peur de représailles ensuite. Mais il faut se rendre compte que la plupart du temps, quand on arrive à se défendre, quand on arrive à faire la tête haute face à ses agresseurs, c'est eux qui partent un peu, excusez-moi le terme, mais la queue entre les jambes. Ouais. Voilà.
Oui, c'est terrible, mais peut-être qu'aussi ce gars a été recommencé ses frottages dans le métro d'à côté.
C'est possible, en espérant qu'il a retrouvé des gens un peu qui auraient fait la même action que moi, le foutre dehors, à voir. Parce que c'était malheureux, parce que je voyais cette pauvre femme qui n'osait pas bouger, elle était coincée entre la foule devant lui, et entre la foule devant elle et ce gars derrière. Et puis, mais ça a duré quelques secondes, parce que vous savez, dans les strapontins, on se lève quand il y a la foule. Donc moi, j'étais devant les strapontins. Et lui, était juste devant moi. Et puis, je voyais que cette femme était gênée et tout. Et que lui, moins il disait, plus il faisait, quoi.
Ouais.
Donc à un moment donné, bah voilà, mais je l'ai, je l'ai un peu invité à sortir, quoi.
Ouais.
Ça n'a pas été virulent, mais bon. Limite, mais bon, voilà.
Bravo pour votre témoignage, Olivier, Thierry. Même si Olivier, notre psy, là, qui était avec nous depuis quelques minutes, même si Olivier, il ne faut pas se cacher, les récits de Virginie, de Valérie, ce qui est arrivé à Coco, Thierry à l'instant, c'est plutôt la minorité.
Voilà. Ah, y a quand même le point commun, le fait de riposter, hein, le fait d'un moment de dire les choses, de les répéter, d'invectiver l'assaillant. Enfin, voilà, ça, c'est quand même un lieu commun, et à partir de là, alors c'est vrai que ça se déroule dans la théorie là, des psychologues de Le Bon, quand on est des groupes de 6 à 12, ça va.
Le Bon qui a beaucoup travaillé, vous le disiez tout à l'heure, sur les phénomènes de foule.
Exactement, voilà, hein, qu'on a écouté enfin, ces derniers mois pour les émeutes, etc. Mais qui a aussi démontrer l'effet bénéfique par moment de la foule. Mais il faut absolument que la victime, c'est ça la stratégie à adopter, puisse dire, puisse crier ce qui lui arrive. Et à partir de là, par effet de contagion, d'imitation, de répétition, on va venir s'intéresser à ce qui se passe.
Mais effectivement,
passé là, on a déjoué toute une stratégie de vol de portable ou...
Voilà. Merci beaucoup Olivier qui nous a appelé spontanément au 3210, qui est donc psychiatre du côté de Lens. Merci à Virginie, à Thierry, à tous ceux qui nous ont appelés. C'était très chouette de consacrer cette première partie des auditeurs ont la parole à ceux qui courageusement dans les transports, dans l'espace public viennent en aide à ceux qui sont attaqués, victimes, agressés.